Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des Récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle. Alors je vous invite à venir avec moi, à oser regarder les pages les plus insolites de la Bible, qu'on trouve un peu bizarres, un peu spéciales, et je crois qu'on y trouve des choses fort intéressantes. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qu'on a souvent maudit ou même démonifié. C'est la personne qui a permis aux autorités religieuses et politiques de ce temps-là d'arrêter Jésus. C'était un des 12 disciples, c'est lui qui s'occupait de l'argent du groupe. Vous l'avez probablement reconnu, on va parler de Judas. Mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder à la mort de Judas. Enfin, pour être plus précis, aux morts de Judas. Pourquoi au pluriel les morts de Judas? Est-ce qu'il est mort plusieurs fois? Bien non. Mais on a au moins deux récits qui sont fort différents de la mort de Judas dans le Nouveau Testament. Et il y a même une troisième version encore plus surprenante qui provient d'un père de l'Église du 2e siècle. Alors vous allez voir, c'est assez surprenant pour le moins et même très intéressant. Bonne écoute! Avant de parler de Judas, je veux répondre à une question reçue cette semaine. Un auditeur habituel qui s'appelle Gérard, que je salue, m'a croisé dans la station ici à Radio-Ville-Marie et me demandait d'où provenaient tous ces récits insolites. Il était un petit peu étonné de voir que je connaissais tous ces récits-là qui venaient de la Bible, mais comment est-ce que j'ai fait pour les trouver? En fait, il voulait d'abord savoir, oui, comment est-ce que j'ai fait pour les trouver dans la Bible, mais aussi quelle était ma formation? Comment ça se fait que j'arrive à trouver ces récits-là et les analyser? Alors, je vais commencer d'abord par parler de ma formation. À la base, moi, avant d'étudier en théologie, j'étais inscrit en biochimie à l'Université de Montréal. J'avais 19 ans et je suis allé au JMJ à Paris avec 1 million d'autres jeunes pour qui la foi était importante. À mon retour, je voulais mieux comprendre ce à quoi je croyais. Et la façon naturelle pour moi, c'était de transférer mon inscription de la biochimie à la théologie. Alors, j'ai fait mon bac en théologie et à la fin de mon bac, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise en études bibliques. Pourquoi la Bible? C'est parce que j'avais compris que la base de la foi chrétienne, le fondement de tout ça, pour mieux le comprendre, c'est la Bible. C'est là où on peut essayer de mieux comprendre qui est Jésus et l'impact qu'il a eu. Alors, j'ai plongé dans la maîtrise en études bibliques à l'Université de Montréal. Et ça a été très, très intéressant. J'ai eu plusieurs cours, un éventail de cours, et en particulier un cours de grec ancien que j'ai trouvé très difficile. Mais tous ces cours-là m'ont permis de regarder la Bible avec des yeux différents. Par exemple, à partir de ces cours-là, je pouvais analyser la Bible avec un regard historique. On appelle ça une approche historico-critique. Et aussi, par une analyse narrative, où là, au lieu d'y aller avec l'histoire, on regarde plutôt les personnages et on regarde le récit qui est devant nous. Et pendant cette maîtrise-là, je faisais aussi un stage à Radio-Ville-Marie, avec une émission qui, à l'époque, s'intitulait Interbible. C'était en lien avec le site web du même nom, dont je suis aujourd'hui le responsable de la rédaction. Donc, c'est ça ma formation, c'est ça qui m'a amené à étudier la Bible. Bon, maintenant, comment est-ce que j'ai trouvé ces récits insolites-là? Tout au long de ma formation, j'ai lu la Bible, parce qu'on l'étudie, mais on la lit aussi. Et pas juste un petit paragraphe comme on le lit à la messe, là. Lire les livres au complet, et même la Bible au complet. Et bon, c'est fou ce qu'on peut comprendre quand on lit un livre en entier, au lieu de le lire passage par passage. Il y a comme une montée qui va vers un point de chute, alors il y a une histoire qui se transmet, un début, une fin. Alors quand tu lis du début à la fin un livre, tu finis par comprendre un peu mieux le message que passage par passage. Et je dois avouer que c'est probablement mon humour personnel, mon goût pour les histoires qui font réagir, qui m'ont fait noter les passages que je trouvais les plus drôles, les plus violents, les plus bizarres, les passages que je disais « Mon Dieu, c'est dans la Bible, ça! » Et comme je travaille dans un collège avec des adolescents, au collège Saint-Jean-Vianney, j'ai commencé à leur en parler. de façon informelle, et j'ai vu que ça captivait leur attention. Et de plus en plus, ils m'en demandaient. Ils venaient lors des récréations, sur l'heure du dîner, et voulaient que je leur parle des récits bizarres de la Bible. Alors, j'ai commencé à leur en parler, et j'ai vu que ça les motivait à mieux connaître c'est quoi la Bible. Et par eux-mêmes, ils ont commencé à lire la Bible et venir m'en parler. Alors, je voyais que c'était une méthode pour s'initier et s'introduire à la Bible. L'idée est venue de mettre ça ensemble et de faire un livre à partir de ça. Mon éditeur Novalis a décidé de collaborer avec Mediapol pour pouvoir le diffuser en Europe. Et bon, si ça vous intéresse, le titre de cette œuvre-là, c'est « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Et après la publication du livre, Radio Ville-Marie m'a demandé de faire cette série d'émissions qui est aussi retransmise en balado-diffusion sur Interbible. Alors, c'est l'émission que vous écoutez présentement et j'espère que vous l'appréciez. Donc, comme vous voyez, ces textes-là, ça vient de la Bible. Il n'y a rien que j'invente. Je donne toujours les références, les chapitres, les versets pour que vous puissiez essayer de suivre avec moi. Et c'est tout simplement lors de ma lecture personnelle de la Bible que je les ai trouvés. Alors, j'espère que vous allez apprécier celle d'aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, ça va être les différents récits de la mort de Judas. Avant d'y plonger, je vous demande de nous écrire. Alors, on prend toujours un temps pour vous répondre, comme on vient de le faire à la question de Gérard. L'adresse courriel est assez simple, auditoire@radiovm.com. Vous le savez probablement, la Bible rapporte que l'arrestation de Jésus a été possible à cause de la trahison de Judas. D'habitude, nous lisons ce qui concerne son sort dans les évangiles. En fait, c'est l'évangile de Matthieu qu'on lit le plus souvent. Et on voit que Judas, quand il se rend compte de son geste, il va déclarer « J'ai péché en livrant un sang innocent ». Alors, c'est ça qu'il dit. Vous le savez, la Bible rapporte que l'arrestation de Jésus a été possible à cause de la trahison de Judas. D'habitude, on lit ce qui concerne son sort dans les évangiles, en particulier l'évangile de Matthieu. On y voit que, quand Judas se rend compte de son geste, il déclare, puis là je vais vous citer le texte, « J'ai péché en livrant un sang innocent », Matthieu chapitre 27, verset 4. Puis là, les autorités religieuses vont déclarer « Que nous importe, c'est ton affaire ». Alors, il se retira en jetant l'argent du côté du sanctuaire et alla se pendre. Ça, c'était Matthieu, chapitre 27, les versets 4 et 5. Alors donc, on voit bien que Judas voit qu'est-ce qu'il a fait, s'en repent et va justement se pendre. Or, il existe une autre version de la mort de Judas, qu'on est moins habitué d'entendre, et celle-là, elle n'implique pas du tout de pendaison. Cette version est transmise dans les Actes des apôtres. Les premiers chrétiens sont rassemblés pour déterminer qui va remplacer Judas dans le groupe des 12. Et voici que Pierre va prendre la parole et va nous parler de la mort de Judas. C'est dans les Actes des apôtres, chapitre 1, les versets 15 à 19. On écoute ça.
« En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes, et il déclara, « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit-Saint avait annoncé dans l'Écriture par la bouche de David à propos de Judas devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service. Or cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu, et ses entrailles se sont toutes répandues. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. Aussi cette terre a-t-elle été appelée, dans leur langue, Hakeldama, c'est-à-dire terre de sang.
Ici, au lieu de se pendre, Judas tombe la tête la première. Son corps éclate par le milieu et ses entrailles sont répandues. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une mort assez dégoûtante. Le texte précise pas pourquoi il est tombé. Est-ce qu'il a trébuché sur un objet? Est-ce qu'il est tombé dans le trou? Bon, malgré l'absence de précision, on voit qu'il ne s'agit pas d'un suicide, comme le disaient les évangiles, puis non plus, comme on le disait tout à l'heure, que ce n'est pas une pendaison. Alors, le texte des Actes des apôtres laisse entendre plutôt que c'est une mort accidentelle. Accidentelle, permettez-moi de douter, parce qu'en grec, il y a quelque chose de particulier. Quand il y a un verbe employé au passif, souvent, c'est Dieu qui en fait l'action. Alors, ici, le verbe qu'on traduit par « éclater » ou « se fendre », alors quand sa tête tombe, c'est « elakesen ». Et ce verbe-là, il est sous la forme passive. Alors, dans ce cas, on pourrait en déduire que Judas est châtié par Dieu, que c'est Dieu qui est à l'origine de cet accident-là. D'ailleurs, une mort aussi horrible, dans le monde biblique, ça implique une punition divine. Les actes des apôtres, s'inspirent peut-être du livre de la Sagesse, qui parle de la mort des impies dans des termes qui nous font penser à tout ça. Je vous cite le livre de la Sagesse, chapitre 4, verset 19. « Le Seigneur les précipitera sans qu'ils puissent dire mot, la tête la première. » Or, c'est justement ça qu'on a vu dans l'accident. Judas est tombé, la tête la première. Et par le passif, on suppose que c'est Dieu qui l'a peut-être poussé là-dedans. Entre la version des évangiles, avec la pendaison, celle des Actes des apôtres avec cet accident, il semble avoir une contradiction importante. Le moyen, la cause de la mort de Judas, ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, il se suicide par pendaison, de l'autre, il meurt accidentellement dans une chute, son corps s'ouvre, ses entrailles se répandent. Les deux versions sont transmises par des premiers chrétiens et ça se retrouve tous les deux dans la Bible, mais dans des livres différents de la Bible. Devant ces éléments discordants, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a des croyants qui ne peuvent pas vivre avec deux traditions différentes et qui ont essayé des explications bizarres pour essayer de superposer ces récits-là, de les additionner ensemble. Et ça donne quelque chose d'un peu particulier où Judas va se pendre dans son champ, la corde casse, son corps tombe, la tête tombe en premier, éclate, ses intestins se répandent. Alors, on additionne les deux. Mais c'est une version qui semble un peu ridicule et en même temps, ça fonctionne pas ni avec l'un ni avec l'autre. Là. C'est juste additionné sans tenir compte du contexte dans lequel est écrit ces deux textes-là. Moi, je pense que pour comprendre la contradiction qui existe entre les différentes morts de Judas, il faut s'arrêter à la nature même des textes. C'est pas un reportage en direct. C'est plutôt deux versions d'un même événement racontées par deux auteurs différents dans deux livres bibliques différents. Il ne faut pas essayer de gommer les divergences entre les récits. Le seul fait que nous avons quatre évangiles nous montre qu'il y a plusieurs façons de raconter l'histoire de Jésus. Ces divers récits, dans leur similitude, dans leur contradiction, sont l'expression de la foi chrétienne. Or, les deux récits nous transmettent une vérité, même si c'est impossible que ça soit passé exactement comme l'un ou comme l'autre à la fois. Puis vous savez, on trouve même une troisième description de la mort de Judas, dans le christianisme primitif. C'est au IIe siècle, c'est un évêque qui s'appelle Papias. Il est évêque de Hiérapolis, une ville, et il écrit au sujet de Judas qui est devenu si obèse que...
Sa chair fut à tel point enflée qu'il ne pouvait pas passer le volume de sa tête là où un chariot passe facilement. Les paupières de ses yeux, dit-on, avaient tellement gonflé qu'il ne pouvait plus du tout voir la lumière. Il portait sur lui des flots de pus qui s'écoulaient de tout son corps et des vers qui le tourmentaient même dans ses besoins naturels. Il mourut sur son propre terrain à cause de l'odeur. Le terrain devint désert et inhabitable jusqu'à maintenant.
C'est assez horrible. Nous avons donc trois récits racontant différemment la mort de Judas. C'est impossible de préciser historiquement qu'est-ce qui s'est passé. On a trois récits, on ne sait pas lequel des trois a raison. Par ailleurs, les trois versions s'accordent pour interpréter la mort de Judas comme quelque chose d'épouvantable, comme une conséquence de son acte de trahison. Après un peu de musique, on va essayer de comprendre cette trahison de Judas. Est-ce qu'il a trahi son maître ou est-ce qu'il a permis à Judas de jouer son rôle dans l'histoire du salut? C'est ce qu'on verra. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, nous parlons de Judas. En fait, on parle des morts de Judas. On a vu trois versions différentes de sa mort. On était d'accord qu'il était impossible de préciser historiquement qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Par contre, les trois versions s'accordent pour interpréter la mort d'une façon épouvantable et de montrer que cette mort-là est une conséquence d'un acte très négatif, d'un acte de trahison de Judas envers son maître Jésus. Traditionnellement, donc, le châtiment de Judas a été compris comme une punition de sa trahison. Mais cette interprétation négative de Judas est plus aussi automatique qu'avant. Il y a quelques théologiens qui vont essayer d'amener une lumière positive sur Judas. Selon Jean-Jacques Lavoie, qui est un exégète québécois, il va dire, je le cite, « Loin de dire que ce geste est immoral, les textes néo-testamentaires, donc du Nouveau Testament, affirment au contraire que Judas est l'instrument indispensable de la rédemption sans qui ne pouvaient s'accomplir les Écritures. Judas est donc totalement innocent. » Fin de la citation. Alors, on le voit bien, M. Lavoie essaie de montrer que il y a quelque chose de positif puisqu'il est l'instrument de la rédemption. D'ailleurs, il y a d'autres théologiens comme Willem qui va affirmer que l'interprétation négative de la mort de Judas est due à une vue post-augustinienne, donc après saint Augustin, et ethnocentrique du suicide. Une interprétation positive de la mort de Judas est également défendue par d'autres auteurs comme W. Klassen dans Judas, Betrayer or Friend of Jesus. On pourrait donc dire que ça commence à être à la mode de voir le côté positif du geste de Judas. La clé de cette interprétation positive se trouve dans le verset 16 du premier chapitre des Actes des Apôtres. Je vous le cite. « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit-Saint avait annoncé par l'Écriture, par la bouche de David, à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Ce qu'on traduit par « il fallait que », c'est un verbe grec, « dei », ce verbe, ça ne suppose pas une prédestination, mais plutôt une interprétation théologique de qu'est-ce qui s'est passé. Ici, dans cette citation-là, c'est Pierre qui tente d'expliquer le sens de la mort horrible de Judas en faisant appel à l'Écriture et en disant qu'il fallait que ça s'accomplisse comme ça, que c'était prévu, que l'Esprit-Saint a annoncé tout ça. À quel texte des Écritures prédisant la mort de Judas, est-ce que ce verset des Actes fait référence? Parce qu'il dit que c'était dans les Écritures. Bon, la mention de la bouche de David, ça nous oriente un peu vers les psaumes, qui sont souvent attribués à David. Mais le texte n'est pas cité, alors on ne peut pas en être certain. Pourtant, il y a un psaume qui semble plausible, le psaume 41. Je vous le cite, au verset 10. « Même l'ami sur qui je comptais et qui partageait mon pain a levé le talon sur moi. » Si on suit l'interprétation du livre des Actes, l'ami qui partageait le pain, ça serait Judas. Alors, justement, avec le dernier repas partagé par tous les disciples, les apôtres. Jésus serait, dans cette analogie-là, David persécuté par ses ennemis. La trahison de Judas accomplirait donc ce qui était déjà annoncé par ce psaume à travers les personnages de David et de ses persécuteurs. Tout comme à l'époque, David avait été abandonné de tous, bien, à ce moment-là, c'est Jésus qui l'a été au moment de son arrestation. Il deviendra le roi messie d'Israël, un peu comme David l'a été. Un autre élément permettrait une relecture moins négative de la trahison de Judas. Ça se trouve au verset 17, chapitre 1 des Actes des Apôtres, où Pierre va spécifier que Judas a reçu la part du ministère des apôtres. Je vous le cite, « Il était de notre nombre et il avait reçu sa part de notre service. » Bon, c'est donc un apôtre à part entière. En devenant le guide de ceux qui ont arrêté Jésus, est-il devenu un traître ou est-ce qu'il est celui qui a permis l'accomplissement des Écritures? Récemment, il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans ce débat-là, c'est la découverte et la traduction de l'Évangile de Judas, qui a ranimé la controverse autour de l'interprétation du rôle de Judas dans la mort de Jésus. Cet évangile apocryphe fait partie des papyrus découverts à Nag Hammadi, ça c'est en Égypte, en 1945. Le papyrus a été restauré, traduit, publié en 2006 par National Geographic. Selon l'hypothèse de l'équipe éditoriale, qui a été largement repris par les médias à l'époque, le texte présenterait une interprétation originale de la trahison de Jésus par Judas, en disant « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Alors ça, c'est la citation. En dénonçant Jésus, Judas aurait été le seul de ses disciples à avoir vraiment compris le message qu'il voulait annoncer. Disciple bien-aimé de Jésus, il aurait reçu la plus difficile des missions, le livrer aux Romains. Alors ça, c'est ce que National Geographic disait qui était dans l'évangile de Judas. Par contre, il faut signaler que cette thèse-là trouve de moins en moins d'appui. Depuis 2006, on a eu le temps de regarder l'évangile de Judas plus attentivement et la communauté scientifique critique la première interprétation du National Geographic. Par exemple, en 2008, il y a eu un congrès international à Houston, aux États-Unis, et qui était sur ce sujet-là, et la majorité des participants ont souligné que la figure de Judas avait rien de positif dans l'évangile de Judas. L'équipe éditoriale du National Geographic et les médias ont insisté sur quelque chose qui était très obscur, il manquait des mots, et ont fait une interprétation, peut-être pour attirer plus l'attention sur leur travail et vendre des copies que ce qui devrait être scientifiquement fait. Alors, il disait que Judas surpassait les autres. Or, dans le contexte immédiat du texte, on voit que Judas va les surpasser, pas dans quelque chose de positif, mais dans quelque chose de négatif. Alors, le débat sur cette question-là est un petit peu pointu, alors on ne rentrera pas trop loin là-dedans, et il n'est pas terminé non plus, mais on ne peut pas dire que l'évangile de Judas donne un éclairage positif sur le geste de celui-ci. On peut donc retenir que il y a des interprétations du rôle de Judas qui sont moins négatives. Par contre, autant dans les Évangiles que dans les Actes des Apôtres, sa mort possède un accent dégoûtant et elle est présentée comme une punition de Dieu. On peut y voir, à travers tout ça, que l'interprétation la plus répandue, au temps des premiers chrétiens, c'était l'interprétation négative de cette punition de Dieu-là. Ceci étant dit, si on essayait de trouver quelques pistes de réflexion pour revenir à nous aujourd'hui, là, pour lier ce récit à nos vies, à nous. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une personne qui meurt, on essaye toujours de donner un sens à cette mort-là, même si c'est parfois difficile. Dans les pires événements, dans les tragédies, on aimerait ça pouvoir trouver quelque chose de positif à travers tout ça. Par exemple, à Montréal, en 1989, il y a eu le meurtre de 14 jeunes filles et le suicide du meurtrier à l'École polytechnique. Ça a profondément choqué et troublé les Canadiens. Ce drame a pourtant rendu possible une réflexion de toute la société sur le contrôle des armes à feu et a mené à la création d'un registre des armes personnelles. L'anniversaire de la tuerie est devenu la Journée nationale de la commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. L'événement reste une tragédie, un non-sens, mais il a donné naissance à des actions positives qui ont certainement permis de sauver d'autres vies. La mort, qu'elle soit violente ou naturelle, reste toujours un mystère qui nous pousse à la réflexion. Nous portons en nous comme un désir d'infini, de vivre. Ce désir se heurte à la réalité de la mort qui nous attend tous. Notre désir est infini alors que la réalité de notre vie, c'est qu'elle a une fin. Bon, selon la bonne nouvelle de l'Évangile, tout ne s'arrête pas là, car la vie est plus forte que la mort. Jésus, qui est mort, a été ressuscité et nous portons l'espoir que nous vivrons pour toujours avec lui. En cette fin d'émission, j'espère que vous appréciez cette série qui ose mettre la lumière sur des récits qui sont souvent mis de côté. Pour aller plus loin, je vous suggère un livre, « Mais d'où vient la femme de Caïn ?» que j'ai publié chez Novalis et Mediapol. À la suite de l'écoute de nos émissions, je vous invite à nous écrire. L'adresse courriel, c'est auditoire@radiovm.com. On prend toujours un temps pour vous répondre en ondes, mais je vous aurai écrit aussi, ça c'est sûr. Juste un petit instant pour vous dire merci à chacun, chacune d'entre vous qui prenez le temps d'écouter de façon attentive notre émission. Merci à Marie Laferrière pour sa lecture et Alain Primo, notre fidèle technicien. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.